Renault.
L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente » Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Source l'Automobile Magazine 2023.
Delphine Bateau, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, députée des Deux-Sèvres à l'Assemblée nationale. Vous êtes vice-présidente du groupe Écologie, Démocratie, Solidarité 15. Députée, vous êtes aussi présidente de Génération Écologie. Vous demandez la suppression de l'élection du président de la République au suffrage universel et la création d'un grand parti écologiste. Nous y reviendrons. Mais je voudrais commencer avec ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Évidemment, Delphine Bateau, vous êtes à l'origine de l'amendement qui a interdit les néonicotinoïdes en France. C'était la loi biodiversité de 2016, hein, c'est bien
c'est
cela.
Ça, oui.
Et voilà que ces néonicotinoïdes ont été réintroduits. L'Assemblée nationale a voté la réintroduction temporaire des néonicotinoïdes qui tuent les abeilles pour sauver la betterave française. Vous avez évidemment voté contre. Vous regrettez ce vote. Pourquoi ?
C'est beaucoup plus grave qu'un regret, qu'un simple regret. En fait, cette loi qui réhabilite les néonicotinoïdes, qui sont un poison, qui sont 7000 fois plus toxiques que le DDT qui a été interdit il y a 50 ans, qui tue les abeilles, les papillons, les vers de terre, les oiseaux, dans un contexte où, en France, dans nos campagnes, on a 85% de population d'insectes en moins, un tiers des oiseaux des champs en moins, tout ça en 20 ans, 15 ans. Donc c'est monstrueux, en fait, ce qui est en train de se passer. Et que dans ce contexte-là, on demande au Parlement de prendre la décision délibérée, volontaire, en toute connaissance de cause, de remettre du poison sur 400 000 hectares en France, dont on aura encore les conséquences dans 20 ans. C'est monstrueux, en fait.
Provisoirement.
C'est monstrueux.
3 ans uniquement pour la culture de la betterave,
en fait,
pour éviter que la filière de la betterave ne disparaisse en France.
Jean-Jacques Bourdin, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir d'autres filières qui vont dire, mais nous aussi, pourquoi que la betterave? Ensuite, vous allez.
Mais non,
vous
c'est
allez,
écrit dans la loi.
Vous allez
Il est écrit dans la loi que l'abrogation, que la dérogation, pardon, ne concerne que la betterave.
En fait, il y a eu une petite astuce juridique qui consiste à mettre cet article-là dans un autre article qui sera probablement censuré par le Conseil constitutionnel. Donc c'est, mais même que la betterave, Jean-Jacques Bourdin, c'est 400 000 hectares. C'est des régions entières dans lesquelles on met un poison qui, une fois qu'il est dans le sol, on ne le contrôle pas. C'est-à-dire qu'il va dans les eaux, il va dans les autres parcelles agricoles. Dans les Deux-Sèvres, on a un centre du CNRS sur une zone atelier. Qu'est-ce qu'on constate? On trouve des néonicotinoïdes parce qu'on les a utilisés pendant des années, dans des parcelles en bio où il n'y a jamais eu de pesticides, dans des cours d'eau très loin de là où ont été utilisés les néonicotinoïdes. Il y a un des néonicotinoïdes aujourd'hui qui est parmi les pesticides les plus retrouvés dans les cours d'eau en France. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que je veux être concrète pour qu'on comprenne. Ce qu'ils vont autoriser, ce sont ce qu'on appelle des semences enrobées.
Oui,
c'est-à-dire la graine, elle est enrobée du poison. Vous avez 80 à 98% du poison qui part dans le sol ou dans l'eau. Il pleut, il y a une flaque d'eau, les abeilles viennent boire, elles meurent instantanément. Instantanément. Ensuite, vous avez à des centaines de mètres de là ou des kilomètres de là, des pissenlits ou un champ de colza. Les abeilles viennent, elles butinent le colza ou le pissenlit, elles ramènent des néonicotinoïdes à la ruche. Et là, il suffit de 0,005 nanogrammes de néonicotinoïdes pour multiplier la mortalité des abeilles par 2. Donc c'est, si vous voulez, tout ça, on le sait.
Des précautions ont été prises, Delphine Bateau,
non,
dans la loi.
Non, aucune précaution.
Création d'un conseil de surveillance, interdiction sur des parcelles où sont utilisés des néonicotinoïdes, d'implanter des cultures attirant les abeilles.
Mais, Jean-Jacques
c'est
Bourdin,
insuffisant, donc.
On peut écrire dans la loi.
Oui.
On peut écrire dans les arrêtés que le règlement prévoit que les néonicotinoïdes ils doivent rester dans telle parcelle.
Oui.
Dans la nature, ça ne se passe pas comme ça. C'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques qui le disent. Donc tout ça est totalement fallacieux. Totalement fallacieux. Et 2 ans, ne pas mettre de culture attractive pour les abeilles pendant 2 ans. Mais en fait, ces produits, ils ont des effets sur 20 ans. Et il suffit de quantités infinitésimales pour tuer des insectes, des vers de terre. Donc ce qui est aberrant, si vous voulez, avec ce projet de loi, c'est qu'on prenne une décision pareille, comme si la France n'avait rien appris. Le chlordécone, par exemple, quand il est le chlordécone qui aujourd'hui crée une situation sanitaire gravissime aux Antilles, il a été interdit. Eh bien, pareil, il y a eu des dérogations. Et aujourd'hui, on met en cause la responsabilité de l'État. Mais
Delphine Bateau, ce puceron, parce qu'il faut expliquer aux auditeurs ce qui se passe, c'est un puceron qui est vecteur d'une maladie qui affaiblit les plantes.
Oui, la jaunisse.
La jaunisse. Il y a 400 000 hectares de betteraves sucrières à peu près en France. Le problème, c'est que si on ne protège pas ces plants de betteraves, on va être obligé d'importer des betteraves ou du sucre d'ailleurs.
C'est totalement faux.
Ah, alors expliquez-moi pourquoi.
C'est totalement faux parce qu'en fait...
Quelle solution alternative y a-t-il ?
J'y viens, mais d'abord, la France est largement excédentaire en production de sucre. On exporte massivement.
La moitié de la production.
Donc, il n'y a aucun risque de pénurie de sucre en France. Ça, c'est la première chose. La deuxième, il faut parler du puceron et de la jaunisse. D'abord, pourquoi est-ce que les pucerons ont prospéré ? Parce qu'il y a le changement climatique. Et donc, si la solution d'adaptation au changement climatique, c'est de dire qu'il faut remettre plein de poisons toxiques dans les sols, on ne va pas s'en sortir. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, la jaunisse. Est-ce qu'elle est sur 100% des cultures de betteraves à sucre cette année ? Non. La perte de rendement, c'est ce que dit la filière betterave, ce n'est pas moi. 15%. Et en fait, si on compare la perte de rendement qui est liée à la jaunisse par rapport à celle de l'année dernière, qui était aussi une année de sécheresse, en fait, c'est 8,5%. Nous pensons, nous avons fait des propositions, qu'on peut couvrir ces pertes, assurer la sécurité des revenus agricoles, sans décider...
Et ne pas mettre en danger les 46 000 emplois de la filière.
Ne pas mettre en danger, Jean-Jacques Bourdin, non seulement la biodiversité, mais d'autres filières agricoles. Parce que l'apiculture, alors que la production de miel en France a été divisée par 3, c'est une production agricole. Les grandes cultures comme le colza, le tournesol, qui dépendent du travail des abeilles, ce sont des productions agricoles. Et qu'est-ce qu'on constate en France ? Excusez-moi d'insister. Oui. C'est comme on a de moins en moins d'insectes et de moins en moins de pollinisateurs, on commence à avoir une perte de rendement, une diminution des rendements sur ces grandes cultures qui dépendent de la pollinisation. Et donc, ce qui menace aujourd'hui la souveraineté et la sécurité alimentaire de la France, c'est l'effondrement de la biodiversité. Et si on ne comprend pas ça, alors que c'est ce que dit la science, eh bien, c'est un contresens historique.
C'est provisoire, Delphine Bateau. 3 années. Et en jeu aussi la souveraineté agroalimentaire de la France, non ?
Non, puisqu'on ne manque pas de sucre et que ce qui menace...
Donc on n'importera pas de sucre.
Non, et ce qui menace la souveraineté alimentaire de la France, c'est l'effondrement de la biodiversité. Et je voudrais ajouter une chose qui est très importante, Jean-Jacques Bourdin. C'est que la France a été le premier pays au monde à interdire les néonicotinoïdes.
Oui.
Et que ce pays, la France... décide de faire marche arrière, va être l'argument publicitaire de toutes les firmes de l'agrochimie partout dans le monde pour dire que les néonicotinoïdes, on ne peut pas s'en passer.
11 pays en Europe utilisent encore les néonicotinoïdes.
Ça, c'est un scandale.
11 pays en Europe, dans une Union européenne qui ne fait pas son travail, faible par rapport aux grands de l'agroalimentaire.
C'est un point extrêmement important.
Oui.
La filière française, c'est vrai, subit la concurrence déloyale de pays européens qui sont les mêmes que ceux qui ont voté en 2018 quand l'Europe, à la suite de la loi française, a interdit les néonicotinoïdes. Il y a des pays qui étaient contre. Et donc, ils ont utilisé l'astuce de dérogation pour contourner la décision européenne. Et qu'est-ce qui est en train de se passer ? Ce qui est en train de se passer, c'est que vous avez un rapport de la Cour des comptes européenne, que vous avez une déclaration de la Commission européenne de cette semaine, une déclaration de la ministre allemande de l'Agriculture qui dit les dérogations stop, et la Commission européenne qui dit là, ce qui est en train de faire la France sur les néonicotinoïdes, on va regarder de très près parce que ça pose un problème de contournement. Il y a 3 produits en fait qui sont interdits par l'Europe, qui sont ceux que le gouvernement veut autoriser en France, et donc il faut que la France, au lieu de s'aligner sur ce qui se fait de pire en Europe, aide l'Allemagne, la Commission européenne, à faire interdire ces dérogations.
Bien, Delphine Bateau, WWF publie une nouvelle étude sur les SUV. Mmh. Ces véhicules qui, selon cette étude, ont un impact, je cite, « écrasant sur le climat ». Deuxième source de croissance des émissions de CO2 en France, les SUV. Alors, que demandez-vous au gouvernement? Où en est-on? Parce que on attend des mesures autour de ces SUV. Vous proposez une interdiction de la publicité pour les véhicules les plus lourds, parce que ces SUV sont plus hauts, plus longs, plus larges et plus lourds. C'est bien cela?
Oui.
Vous demandez l'interdiction de la publicité. Ce que demandent d'ailleurs les citoyens de la Convention.
J'allais
climat.
Le dire.
Ben oui,
j'allais
non,
le dire. C'est-à-dire que le oui. fait d'introduire un malus au poids,
oui. Oui.
le fait d'interdire la publicité sur mais... ce type de véhicule extrêmement oui. polluant, parce qu'on n'a pas besoin de 4x4 en ville. Enfin, franchement, il y a eu une dérive dans la conception des véhicules par les constructeurs. Cette mode
le
des SUV...
Le SUV n'est pas forcément un 4x4, hein,
non,
Delphine
Bateau. Un faux 4x4.
Oui.
Le look d'un 4x4,
le
etc.
Look, mais
c'est pas
4 euros motorisés.
Tout à fait, tout à
oui.
fait. On est d'accord.
Oui. Mais Delphine Bateau, les plus riches auront donc le droit de polluer.
Non.
Si j'ai bien compris, avec un malus plus lourd, j'ai de l'argent... Je m'achète un gros 4x4, peu importe le poids de la voiture, du
alors,
véhicule, je m'en moque, je vais payer plus de taxes et je pourrai continuer à rouler.
C'est la raison pour laquelle j'ai ouvert le débat sur la question des quotas carbone. C'est pas quelque chose qui soit possible à mettre en œuvre dans tous les domaines aujourd'hui, et notamment dans le domaine de l'automobile. Mais vous avez raison qu'il y a une certaine limite à la logique des taxes.
Mais
c'est
oui.
pour ça qu'il ne faut pas balayer du revers de la main, comme est en train de le faire le gouvernement, la question de nos imaginaires, la question de la publicité, la question de l'incitation, en fait, à instaurer le SUV comme le modèle.
Vous demandez
de
l'interdiction
véhicule.
De la publicité
oui,
pour les SUV.
Sur les SUV, sur les voyages en avion avec une durée de séjour de moins de 15 jours. Enfin, sur tout ce qui est une aberration du point de vue climatique.
Bien, première niche parlementaire demain pour votre nouveau groupe. Vous allez défendre avec votre groupe 4 propositions de loi. Je dis 4 au lieu de 7
oui.
parce que vous avez retiré 3 propositions
non,
de
retire,
loi. Enfin, vous retirez. Ah bon,
on retire
ça
n'a rien.
Pas été voté en commission.
Voilà.
Voilà. Bah,
voilà.
D'accord. Enfin, c'est un peu pareil quand même. Vous
non,
êtes obligé.
Non, c'est pas pareil. C'est alors, que...
Est-ce que vous regrettez d'ailleurs oui, ces 3 propositions de loi
ah,
que...
ces 3 propositions de loi très
je
importantes.
Je rappelle quelles sont. Le vote à 16 ans.
Le vote à 16 ans.
Hein toutes les élections, le vote à 16 ans.
Oui.
En
tout cas, on veut ouvrir ce débat.
Oui.
Sur
le... ce débat.
Oui, sur le fait de
donc,
permettre à la jeunesse de s'exprimer.
Majorité à 16 ans, Delphine Bateau.
Voilà, c'est le type de débat sur lequel il faut certainement aller plus loin.
Eh oui, parce que vote
absolument.
À 16 ans, ça veut dire majorité
absolument.
À 16 ans.
Mais en tout cas, il y a des pays qui, par exemple, autorisent déjà le vote à 16 ans ou autorisent le vote à 16 ans pour les élections locales. Donc, il faudra que la France, quand même, se pose la question et c'est un combat que nous poursuivrons. La publicité.
La publicité, donc, oui.
Voilà, et je veux prendre un exemple très concret de ce qu'il y a dans cette proposition de loi. L'interdiction des écrans de publicité vidéo numérique qu'on voit se déployer partout actuellement, qui sont une hérésie en termes de consommation d'énergie, mais aussi pour la santé. On peut pas avoir l'Organisation mondiale de la santé qui dit qu'il faut protéger les enfants des écrans, que c'est mauvais pour leurs facultés cognitives et tapisser toutes les gares, toutes les villes, toutes les stations de métro avec des écrans vidéo. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait décider d'arrêter.
Autre proposition de loi retirée, pas d'interdiction de la publicité pour les produits polluants. Hein.
Oui, donc on en a parlé.
Donc on a parlé. Bon, vous allez défendre 4 propositions de loi qui sont très intéressantes. Congé de paternité égalitaire. Oui, mais ça, c'est. Le gouvernement a fait un effort. On est passé.
Une fois
de
qu'on
14
a inscrit,
à 28 jours. C'est
voilà,
déjà pas mal, non, Delphine Bateau
une fois qu'on a inscrit notre texte à l'ordre du jour, il y a eu une annonce du président de la République.
Donc,
tant
ça
mieux.
Vous satisfait.
C'est moins que le congé de parentalité que nous proposions, mais ça avance.
Autorisation de l'avortement jusqu'à la fin de la 14e semaine de grossesse, au lieu de 12 actuellement. Là aussi.
C'est
le gouvernement hésite. Est-ce que vous pensez
d'abord,
que
cette
proposition de loi sera adoptée?
Il y a une urgence de santé publique, encore plus d'ailleurs avec ce qui s'est passé pendant le confinement et la pandémie actuelle.
Oui.
On a un certain nombre de femmes aujourd'hui qui partent à l'étranger parce qu'elles sont hors délai. Donc il faut effectivement résoudre ce problème.
Bien, vous avez aussi l'interdiction de certaines pratiques contre les animaux, mais là encore, le gouvernement a commencé le travail. Delphine Bateau.
Pareil, une fois que nous avons inscrit le texte à l'ordre du jour, et tant mieux si ça avance.
Il y a une autre proposition de loi qui m'intéresse beaucoup, un système de parrainage de citoyens pour soutenir les réfugiés.
Oui.
C'est-à-dire, expliquez-moi.
C'est-à-dire que ce qu'on vit en particulier dans les territoires ruraux. C'est une mobilisation des citoyens pour soutenir, accompagner, aider des personnes réfugiées qui viennent de pays qui vivent actuellement des situations barbares. Donc des personnes qui sont en train ou ont obtenu le statut de réfugié. Et l'idée, c'est de permettre un parrainage citoyen.
Un statut de parrain, finalement
Tout à fait. Je pense que par rapport à la mobilisation citoyenne solidaire qu'on constate aujourd'hui de façon très simple, très humble, dans plein de territoires, je pense que c'est important qu'il y ait une reconnaissance de la République.
Bien, Delphine Bateau, vous demandez la création d'un grand parti écologiste.
Oui.
Ben, il y a déjà un parti écologiste Europe Écologie. Les Verts, c'est un grand parti. Non. Puis il y a le vôtre, Génération Écologie, d'autres mouvements.
D'abord, aujourd'hui, on est unis. Ben. On est unis, on a ce qu'on appelle le pôle des partis écologistes. Donc, mon propos, c'est de dire qu'on doit se mettre en ordre de marche par rapport à l'élection majeure. Aux élections majeures législatives et présidentielles de 2022. Et que pour ça, on a besoin d'un nouvel outil. Alors, soit une fédération, soit encore mieux, un nouveau grand parti permettant d'attirer autour des écologistes plein de figures et de personnes nouvelles et de militants nouveaux.
On a aujourd'hui à la présidentielle, évidemment.
Le moment venu, oui, mais ce n'est pas la première question à laquelle il faut répondre.
Non, mais vous savez combien cette élection présidentielle, vous le savez d'ailleurs, je vais en parler avec vous dans un instant, vous savez combien elle est importante et combien elle règle, finalement. C'est l'élection primordiale de notre vie politique.
C'est d'ailleurs un des problèmes du pays.
Oui, c'est un des problèmes.
C'est d'ailleurs un des problèmes du pays parce que ce système ne fonctionne. Ou si vous voulez, on remet notre destin démocratique dans cette idée fausse que c'est la rencontre du destin d'un homme avec le ça suffit en fait. Je veux dire, on est au 21e siècle. Ce système complètement vertical, patriarcal, est en train de tuer la démocratie.
C'est pour ça que vous demandez la suppression.
Il favorise l'abstention, il favorise toutes les formes de montée de solutions autoritaires telles qu'on le voit. Donc il faut.
Nous vivons sous un régime autoritaire, là, Delphine Bateau ?
Non, j'ai pas dit ça. Je dis que ce système est à bout de souffle, il est épuisé, il est dangereux parce qu'il est en train de tuer la démocratie et que nous, les écologistes, plutôt que de chercher à se mettre dans le moule de cette logique, des bastons entre individus qui ensuite finissent en général dans un grand plouf, je dis plusieurs choses. D'abord, aucune victoire n'est possible sans unité et sans rassemblement des écologistes. Deux, on doit se mettre en ordre de bataille pour crédibiliser notre capacité à exercer les responsabilités en France, pour travailler sur le socle d'un programme, pour mettre en avant une équipe. Le moment venu, on décidera du nom qu'on met sur le bulletin de vote. Mais c'est pas par ça qu'il faut commencer, parce que nous devons proposer au pays un changement démocratique majeur qui est d'en finir avec le présidentialisme.
Une union à gauche, quoi. Clairement à gauche, ce mouvement.
Une union des écologistes. Ensuite, ceux qui sont pour l'écologie, regardez ce qui s'est passé. Permettez-moi, Jean-Jacques Bourdin.
Parce que ce qui m'intéresse, Delphine Bateau,
je peux prendre un exemple.
Oui, attendez, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir le prendre. Mais je me souviens, quand vous avez créé votre groupe, nous ne sommes ni de droite ni de gauche. C'est ce qui est écrit.
J'ai pas dit ni, Jean-Jacques Bourdin. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y a un nouveau clivage.
Ni dans la majorité, ni dans l'opposition.
Le groupe à l'Assemblée nationale.
Ah oui, vous faites partie de ce groupe, vous êtes vice-présidente.
Absolument. Moi, je parlais de ce que j'ai expliqué sur le nouveau clivage qui est en train de structurer le paysage politique entre ce que j'ai appelé les terriens et les destructeurs. Ce clivage, on l'a vu dans le vote d'hier à l'Assemblée nationale. Regardez l'analyse du scrutin sur les néonicotinoïdes. Eh bien, vous voyez qu'il y a des collègues, évidemment, de groupes qui ont mon groupe, d'autres groupes ont entièrement voté contre ce texte. Mais vous avez des collègues de La République En Marche qui ont voté contre. Vous avez des députés Les Républicains qui ont voté contre. Vous avez des députés Modem qui ont voté contre. Et en fait, ce que ça fait apparaître, c'est que ce clivage, quelque part, pour ou contre le vivant, il est en train de structurer petit à petit le paysage politique.
Il est en train de structurer petit à petit le paysage politique.
Oui. Alors, et nous devons rassembler tous ceux qui sont pour l'écologie.
Vous demandez la suppression de l'élection du président de la République au suffrage universel. Vous remplacez cette élection au suffrage universel par quoi ?
par les élections législatives, par un régime primo-ministériel, par le fait...
C'est-à-dire, on vote aux législatives et ensuite les députés choisissent le président.
Non, il peut y avoir un président de la République par rapport à un certain nombre de fonctions.
Comment est-il choisi ?
Attendez, oui. Il peut y avoir un ou une présidente de la République, comme dans d'autres pays, par rapport à des fonctions de garantie constitutionnelle, etc. Moi, mon propos, c'est de dire aujourd'hui que la France doit rompre avec le présidentialisme, qui est une sorte de survivance monarchiste, et qui explique une partie des problèmes du pays. Le fait que toute cette concentration des pouvoirs, que toutes les décisions soient dans les mains d'un seul, une forme de culte du narcissisme où le compte Instagram devient plus important qu'un programme politique. Tout ça est en train de tuer la politique, en fait. Donc, ce que nous devons faire, nous les écologistes, c'est construire un projet collectif avec les citoyens qui proposent le moment venu au pays une nouvelle gouvernance démocratique.
Avec un Premier ministre, un système à l'allemande un peu, ou avec un Premier ministre
Il y a des inspirations à regarder. Faut pas copier l'Allemagne, mais à quoi aboutit le système présidentiel actuel? Il aboutit au fait que quelqu'un qui fait 20, 22, 24% au premier tour de l'élection présidentielle, il a les pleins pouvoirs en France, en fait. Il a ensuite une majorité très large à l'Assemblée nationale, et donc il n'est plus obligé de discuter avec personne. Et je ne crois pas qu'une formation politique minoritaire dans le pays puisse gouverner la France comme il faut, et ça donne lieu aux tensions que l'on connaît actuellement.
Bien, dernière question, le Covid. Oui. 50% des députés à l'Assemblée nationale, en commission et dans l'hémicycle, il y a beaucoup de cas parmi les députés.
Il y a un certain nombre de cas contacts. On n'a pas tellement d'informations, mais voilà, on doit tous se faire tester et appliquer les consignes.
Merci Delphine Bateau d'être venue nous voir. Éric Dupond-Moretti sera mon invité demain matin. Ne ratez pas ce rendez-vous. Il est 8h55 RMC et BFM TV.